Vous écoutez France Culture.
Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Du Grain à Moudre. Nous sommes ensemble jusqu'à 19h, une émission préparée par Céline Leclerc, Mathilde Barbier, Mélanie Chalandon, réalisée par Jean-Christophe Francis. À la prise de son ce soir, Ronan Mahé. Une mort qui est passée quasi inaperçue, celle d'un ancien géant du net devenu quantité négligeable. En juillet dernier, Alta Vista cessait toute activité. Il y a 15 ans, Alta Vista était pourtant le moteur de recherche le plus prisé du web, car le plus performant. Oui, mais voilà, il y a 15 ans, Google n'existait pas, ou si peu. L'histoire de Google commence en septembre 1998. Comme tous les contes de fées de l'ère informatique, l'entreprise voit le jour non pas dans une étable mais dans un garage en Californie grâce au coup de génie de deux étudiants, Larry Page et Sergey Brin. C'est peu de dire que depuis, leur bébé a grandi, 50 milliards de dollars de chiffre d'affaires annuel, c'est le poids économique d'une firme devenue tentaculaire, dominant largement le marché des moteurs de recherche, donc de l'information, mais aussi celui de la vidéo avec YouTube, de la téléphonie mobile avec son système d'exploitation Android, de la cartographie avec Google Maps et Google Earth, sans compter les révolutions à venir dans l'automobile, la vision augmentée, la longévité humaine. Bien plus qu'une simple entreprise, Google est aussi devenu un acteur politique, à tel point que lorsqu'Aurélie Filippetti décide de boycotter l'inauguration parisienne du lab de son institut culturel, c'était la semaine dernière, l'affront tourne quasiment à l'affaire d'État. La ministre de la Culture revendique d'ailleurs une décision politique, expliquant avoir agi ainsi en réaction aux propos de Vint Cerf, un des évangélistes en chef de chez Google. Il s'agit d'un titre officiel. La phrase en question, prononcée fin novembre, « La vie privée pourrait bien être une anomalie ». Des propos qui inquiètent au point de réinterroger les véritables intentions de la firme californienne. Alors, le projet Google est-il totalitaire? C'est notre sujet du jour. Ils sont trois pour en discuter ce soir. Vincent Piorène, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes le cofondateur du site L'Atelier du Numérique. Vous présentez depuis quelques mois déjà l'émission Les Héros du Web, émission dédiée au monde de l'entrepreneuriat et du numérique, qu'on peut trouver donc sur le web.
Sur YouTube, exactement, sur la chaîne Presse Citron.
Et c'est tous les mois.
Et c'est tous les mois, oui. Le prochain épisode sera disponible dès demain d'ailleurs. Il portera sur la maison connectée.
Alors pour discuter avec vous ce soir, Vincent Piorène, Ariel Kirou, bonsoir.
Bonsoir.
Journaliste, rédacteur en chef du site Culture Mobile, membre du collectif de rédaction de la revue Multitude, qui avait consacré il y a quelques années de ça un de ses numéros justement à Google. Vous avez publié aux éditions Inculte, c'était en 2010, Google God, Big Brother n'existe pas, il est partout. Et puis notre troisième invité, Gilles Babinet, bonsoir.
Bonsoir.
Ancien président du Conseil national du numérique, vous avez été l'auteur d'un rapport pour le compte de l'Institut Montaigne pour un New Deal numérique. Vous venez d'être nommé Digital Champion, ce qui veut dire champion du numérique. Vous l'êtes pour la France auprès de Nelly Kroes, qui est la commissaire européenne chargée du numérique. Est-ce qu'un champion du numérique pour la France et pour l'Union européenne, c'est à peu près la même chose qu'un évangéliste du net pour Google? Ça se rapproche de ça?
Je ne sais pas, je ne pense pas. C'est plus une reconnaissance de l'Union européenne qu'autre chose.
Mais votre mission, elle consiste en quoi? Porter la bonne parole du numérique?
C'est une fonction informelle qui consiste en effet à ça.
Alors j'imagine que vous êtes, enfin j'imagine, j'en sais rien, après tout, que vous êtes tous des utilisateurs de Google. Est-ce que vous êtes des utilisateurs exclusifs de Google, ne serait-ce que pour son métier de base, c'est-à-dire le moteur de recherche, Vincent Piorène?
Je suis utilisateur de Google, en effet, comme plus de 90% des Français, ce qui est quand même un nombre assez impressionnant. Ouais.
90% des Français, ce qui n'est pas forcément d'ailleurs la même proportion à l'échelle mondiale, notamment aux États-Unis, Ariel Kirou.
Oui, aux États-Unis, c'est à peu près, c'est légèrement inférieur, autour de 85%. Dans le seul pays, en fait, où vraiment Google est loin derrière, c'est la Chine, où c'est Baidu, qui est le moteur de recherche chinois, qui a à peu près 70% des parts des moteurs de recherche.
Et Gilles Babinet, vous aussi, utilisateur de Google.
Très utilisateur de Google.
Parce que c'est le meilleur moteur de recherche?
Aussi parce qu'ils ont des services liés qui sont efficaces. C'est-à-dire qu'on n'a pas à chaque fois à rentrer son mot de passe et... Tout ça fait gagner beaucoup de temps.
Alors, on va essayer d'examiner avec vous ce soir ce que représente la puissance économique de Google, sa puissance politique, et puis quelles sont, ou quelle est la stratégie pour les années à venir. Alors, pour donner quelques chiffres, je disais en introduction, 50 milliards de dollars de chiffre d'affaires. Je crois qu'on est à 20 milliards de pages regardées par jour, 30 000 milliards de documents indexés sur le web. Ça a dû changer d'ailleurs depuis 5 minutes, parce qu'il y en a beaucoup chaque jour, évidemment. Vincent Puren, on peut dire que dans son domaine, Google est vraiment la principale, la première entreprise au monde.
On peut même dire qu'il n'y a quasiment pas de concurrents aujourd'hui quand on voit les alliances qui sont nés notamment entre Yahoo et Microsoft et qui ont été un vrai échec, on peut se dire qu'on est face à un acteur qui est quasiment en situation monopolistique.
Situation monopolistique, c'était peut-être pas gagné d'ailleurs il y a quelques années de ça. Je voudrais, alors avant d'entamer vraiment notre discussion entre nous quatre, vous faire écouter une archive, alors qui forcément, quand on parle de Google, peut pas être très ancienne, hein, puisque cette entreprise n'a qu'une quinzaine d'années. Archive qui remonte à 2004, donc c'était il y a un petit peu moins de 10 ans. À l'époque, la firme californienne prépare son introduction en bourse. Est-ce que c'est une introduction qui va lui permettre de se développer énormément? Eh bien, ce n'est pas ce que pensait à l'époque Emmanuel Parodi, le directeur de la rédaction de la revue ZNet.
Google est certainement au sommet de sa puissance et aura du mal à conserver une telle position dans les mois à venir, d'autant que tous ses revenus proviennent d'une seule activité qui consiste à, comme on dit, à vendre de la publicité contextuelle. C'est-à-dire quand vous tapez un mot-clé pour rechercher quelque chose sur Internet, on va vous proposer, en marge des résultats, on va proposer des liens de publicité sponsorisés. Et ça, c'est 90% des revenus de Google. Et c'est un marché sur lequel il y a aussi maintenant beaucoup de concurrents. Donc c'est quand même une société, aussi grosse soit-elle, aussi puissante soit-elle, qui n'a qu'une seule principale source de revenus. Donc sur le long terme, peu d'experts prennent le risque de dire qu'il y aura une évolution positive.
Alors, il ne s'agit pas de dire qu'en 2004, Emmanuel Parodi, oulala, avait tort et que l'avenir lui a donné tort. C'est vrai que c'est toujours compliqué d'imaginer ce que peut être l'avenir d'une société. Mais Ariel Quiroz, est-ce qu'on peut dire qu'au moins Google a énormément surpris en se développant à ce point depuis 10 ans?
Forcément, toute croissance de ce type-là est surprenante, quoi qu'il arrive. Après, je crois qu'il y avait peut-être une dimension qu'on avait du mal à maîtriser et à apercevoir nous-mêmes, c'est que Google fait faire, Google ne fait pas. Je veux dire, la stratégie qu'ils ont eue, par exemple, pour Android, qui est de faire faire les constructeurs, les équipementiers, hein, donc, comme, alors on pourrait les citer ou pas, je ne sais pas si c'est de la pub, hein, mais Samsung, HTC, quoi, il y a toute une gamme d'équipementiers qui effectivement, ont utilisé le système d'exploitation Android pour faire du Google sans Google.
C'est marrant d'ailleurs, pardonnez-moi cette parenthèse, mais que vous vous interrogez sur le fait de savoir si c'est de la pub de site HTC, parce que quand on cite Google, on en fait aussi.
Hein. On en fait aussi, tout à fait.
C'est
oui,
une
oui.
entreprise commerciale.
Oui, oui, c'est une entreprise commerciale, mais c'est vrai qu'elle est tellement insérée dans le. Elle est le net pour nous, quelque part, et les gens en parlent comme si c'était presque un synonyme de l'Internet. Non, ce qui est assez étonnant, en fait, c'est que Google. Ne s'impose pas. Il veut être partout comme si de rien n'était. Et il le fait dans tous les territoires, quels qu'ils soient. Google Maps, il est très content que les activistes s'en emparent et mènent des actions, où que ce soit dans le monde, en Afrique ou ailleurs, avec Google Maps. Google Glass, il va voir, il lance un nombre de projets hallucinants, il rachète un nombre de start-up mais absolument inouï. On n'a jamais vu ça, en fait. En tout cas, c'est un cas rare. Là, par exemple, ils sont en train de construire quelque chose autour de la robotique. 7 start-up, quoi. 7 boîtes ont été achetées. 7. Bon. Donc, en fait, ils ont une stratégie tellement multiple, sur tellement de territoires, avec en plus cette capacité, non pas forcément à faire, mais à faire faire, qu'effectivement, une activité disparaît, une autre naît, ça suscite effectivement une croissance à l'échelle mondiale qui est assez gigantesque. Alors après, rien n'est éternel, bien évidemment.
Alors faire faire plutôt que faire, Gilles Babinet, ça c'est vrai que c'est, ne serait-ce qu'au départ, le coup de génie des créateurs de Google, c'est-à-dire que leur richesse, elle s'est créée à partir de contenus qui ne leur appartiennent pas. Est-ce que ça veut dire que ça peut aussi rendre cette entreprise vulnérable? On a l'impression qu'aujourd'hui, rien ne pourrait ébranler Google, selon le principe du fameux « too big to fail », trop gros pour s'effondrer, dont on disait qu'il était efficient pour les banques américaines jusqu'en 2008. Est-ce que Google est vulnérable du fait de sa nature même?
Oui, je crois que c'est tout à fait vrai. C'est-à-dire que ce qu'on observe quand même dans le numérique, c'est que la durée de vie des entreprises Leur capacité d'émergence est certes extrêmement forte, mais leur capacité de disparition l'est aussi. Il suffit de regarder, je ne citerai que par exemple Apple, qui a été en état de mort clinique, pour ainsi dire, il y a seulement une quinzaine d'années, sans parler de AltaVista, que vous aviez mentionné, qui a disparu. Et ce qui est étonnant d'ailleurs dans le cas de Google, c'est que c'est quasiment le dernier arrivé qui a remporté la mise. Donc, je pourrais éventuellement évoquer aussi MySpace, qui a été un moment extrêmement dominant. Et je crois que ce qui est intéressant, c'est que ce ne sont pas les gens qui font des copies conformes, qui viennent en compétition directe avec la recherche, qui sont à même de désintermédier un jour Google, mais c'est sans doute de nouvelles approches, de nouveaux usages, de nouvelles technologies qui pourront peut-être un jour faire tomber Google de son piédestal. Et je crois que c'est quelque chose qu'il faut avoir à l'esprit, c'est qu'on reste, on rentre dans une nouvelle ère et qu'il ne faut pas forcément la réguler comme on aurait régulé auparavant au cours de l'ère industrielle. Certes, la notion de position dominante est sans doute établie dans le cas de Google, mais c'est une position dominante avec un piédestal qui est assez étroit finalement.
Vincent Puren, est-ce que c'est parce que les dirigeants de Google ont conscience de leur vulnérabilité qu'ils adoptent une stratégie de diversification à ce point étoffée que nous rappelait Ariel Kirou?
Pas forcément. La question que je me pose moi personnellement, c'est est-ce que ce X-Lab, vous savez, le X-Lab, c'est une structure créée par Sergey Brin qui consiste à expérimenter de nouveaux projets, la voiture de Google, les lunettes, etc. Mais la question, c'est est-ce que l'ensemble de ces projets, c'est pas plutôt, c'est pas le futur, mais est-ce que c'est pas plutôt un coup de communication pour oublier un petit peu le vrai modèle de Google qui est la publicité? Parce que la publicité, à partir du moment où on utilise la donnée, parce que la big data, c'est le vrai modèle de Google, c'est quelque chose qui ne plaît pas. Alors, est-ce que ces projets-là, ce n'est pas plutôt un coup de com', à court terme en tout cas, pour camoufler ça? Je ne sais pas.
Oui, parce que si on devait définir en très peu de mots le métier de Google, c'est quoi? C'est régie publicitaire.
C'est une régie publicitaire. Si on prend le dernier trimestre, Google, c'est 15 milliards de chiffre d'affaires. Sur ces 15 milliards-là, 9 milliards ont été dégagés par AdWords et 3 milliards par AdSense. Ce sont deux plateformes de Google. Si on enlève ces deux plateformes-là, Google, ça pèse quasiment plus rien. Donc concrètement, Google sait que la publicité est son modèle. Je pense que son métier maintenant, ça va être d'imaginer les nouveaux supports. Aujourd'hui, c'est le moteur de recherche, c'est YouTube. Demain, ce sera d'autres plateformes, d'autres supports. C'est ça son métier.
Mais ça veut dire que pour vous, c'est une entreprise commerciale et ça n'est qu'une entreprise commerciale?
C'est pas qu'une entreprise commerciale. C'est aussi un entertainer, enfin un producteur de contenu, ou en tout cas un diffuseur de contenu. Donc, c'est une entreprise qui divertit, qui informe, qui apporte une pluralité de services. Donc, on ne peut pas dire que c'est juste une société commerciale.
Ariel Kirou.
Google construit un écosystème multiple qui fait qu'on ne va pas pouvoir échapper à Google. Hein, Google, c'est cette logique du comme si de rien n'était. C'est-à-dire, Apple, il s'impose. C'est un empereur, Apple, en fait. Hein, il a son produit, il est là. Il a quelque chose de majestueux. Je veux dire, Google, non. Google, si c'est un dieu, ce n'est pas un dieu créateur, c'est un dieu qui est partout. C'est le dieu spinoziste. Hein, c'est le dieu, je suis là, mais faites comme si je n'y étais pas. Je veux être le relais de toute l'information du monde, quelque part. Et justement, la stratégie de Google, alors, c'est parce qu'ils pensent qu'ils sont vulnérables ou pas. Je ne sais pas. C'est justement de multiplier tous les territoires où leurs services vont être utiles, voire indispensables. Et une nouvelle fois, pour revenir à l'histoire d'Android, qui est un très très joli symbole donc de ce système d'exploitation de leur téléphone mobile, eh bien, la seule chose qu'ils ont imposée à tous les équipementiers, c'était quoi? Qui est les services Google. Ils étaient gratuits, ils en faisaient ce qu'ils voulaient. C'est les équipementiers qui faisaient, comme ils le souhaitaient, les téléphones mobiles et qui les construisaient. Ils utilisaient simplement les sources de Google et la seule chose, il ne fallait pas brider Internet. Et comme Internet, c'était le moteur de recherche Google, c'était évidemment indispensable en termes d'usage, eh bien, de fait, c'est devenu quelque chose de fort aussi sur tous ces téléphones mobiles.
Mais pourquoi est-ce que Google veut être à ce point-là présent? Est-ce que c'est parce que ça lui permet de faire des affaires, de faire fructifier son chiffre d'affaires ou bien est-ce qu'il y a aussi autre chose derrière, c'est-à-dire peut-être une volonté? Alors, est-ce qu'on est dans l'esprit un peu libertaire qui pouvait être celui des années 70 en Californie, de se dire on veut aussi un monde meilleur, donc faisons un monde meilleur grâce à Google?
C'est une évidence. Hein. Les deux grands motos, comme on dit, hein, les deux claims, les deux promesses de Google, c'est « don't be evil », Hein, ne soyons pas le diable, faisons le bien quelque part, et puis effectivement d'être le relais de toute l'information de la planète. Et les gens de Google ont une véritable conviction dans le pouvoir du software, dans le pouvoir du logiciel. Ils ont la religion des mathématiques, et ils ont aussi la religion de la connaissance, mais la connaissance par les maths en fait. Ils y croient profondément, et ils s'entourent de gens. On a cité Vinsurf, qui était à l'origine un des créateurs, quand même. Vinsurf, c'est l'un des fondateurs de l'Internet quand même, hein. C'est quelqu'un qui est très 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 important.
Ils s'entourent, et qui est donc chef évangéliste, hein. Voilà. Ça fait toujours bizarre hein, d'ailleurs ce genre d'appellation.
Mais ils s'entourent de scientifiques, ils s'entourent de chercheurs, ils se posent des questions, ils font des séminaires, ils ont une fondation qui se pose des questions par rapport à l'écologie, et il y a effectivement ces X-Lab. Non, ils croient réellement dans le pouvoir de ce qu'ils font de changer et de transformer le monde. Maintenant, c'est aussi une boîte qui effectivement a ses principes, ses modes de fonctionnement, et qui, comme toute boîte, doit faire du profit. Bon, mais l'un n'empêche pas l'autre. Et bien souvent, lorsqu'on a critiqué, par exemple, sur l'histoire des droits Google, on a fait comme si ce n'était qu'une boîte voulant faire du profit, alors qu'ils y croyaient réellement. Les logiques de numériser l'intégralité de l'information du monde, dont essentiellement, entre autres, en tout cas, celle des livres, c'est quelque chose à la fois d'intéressé, parce que ça va forcément nourrir le net auquel ils s'identifient, mais c'est aussi quelque chose auquel ils croient. Profondément, peut-être naïvement ou peut-être d'une façon manipulatoire, ou les deux.
Imaginons qu'il soit sincère dans cette croyance d'un monde meilleur, Gilles Babinet. Est-ce que ça nous empêche un devoir peut-être d'inquiétude? C'est-à-dire, est-ce que du fait que ce ne soit pas qu'une entreprise qui cherche à faire des affaires, mais que aussi cette volonté, enfin qu'il y a une dimension en tout cas politique aussi dans le développement de l'entreprise, ça explique, ça justifie qu'on soit un peu inquiet, en particulier en France, comme on l'a vu encore ces derniers jours?
Alors, c'est le bon terme. Est-ce qu'il y a une dimension politique dans le projet de Google? Je pense qu'il y en a une, mais je pense qu'elle est loin derrière la dimension économique. Google est avant tout une entreprise avec une pression importante des marchés, des actionnaires, pour qu'elle génère du profit. Et c'est important d'avoir ça à l'esprit, parce que ça veut dire que cette notion politique est quand même asservie par le fait avant tout de servir les actionnaires, donc ils ne peuvent pas faire n'importe quoi. Et par ailleurs, je pense que malgré tout, les fondateurs de Google, eux, les personnalités et, je dirais, les principaux dirigeants de Google ont effectivement une vision politique. Ils ont une vision politique qui est très commune en Californie, qui est libertarienne, transhumaniste, mécaniste, qui effectivement croit énormément dans l'importance des statistiques. Et je crois que c'est intéressant parce qu'il y a une certaine vision dans ce monde-là. Ils sont anti-régulatoires parce qu'ils sont confrontés à la régulation. Donc, il y a beaucoup de sens, finalement, dans ce qui porte ce genre de choses. Et je crois que la bonne attitude, c'est de ne pas s'effrayer de cela. C'est de comprendre quel est ce projet et de rentrer dans une dialectique, une discussion à l'égard de ce projet. Ce projet porte des choses qui sont importantes, je crois. Pour autant, il a des travers parce qu'il est porté par une vision économique. Et de fait, il n'est pas indépendant dans sa pensée et dans sa clarté.
Donc les intérêts économiques sont une forme de protection au projet politique, Vincent Puren ?
Google a clairement une dimension, je ne sais pas si le mot politique est le bon mot, mais en tout cas quand on voit le poids économique de ces acteurs-là, ils arrivent à remplacer même des fois certaines entreprises. La question est, avec leur projet aérospatial, est-ce qu'ils ne vont pas jouer le rôle de la NASA ? Pareil pour d'autres secteurs en fait. Donc je ne vais pas dire à leur insu, mais presque à leur insu, finalement ils jouent le rôle d'acteurs politiques. C'est une évidence.
Et quand ils rachètent, par exemple, une entreprise qui fabrique des robots et qui est en contrat avec l'armée américaine, on peut aussi se poser la question, c'est-à-dire quelle est la logique, là, dans la stratégie économique de Google, de racheter des robots et de faire des contrats avec l'armée américaine? C'est quoi? C'est Google veut devenir une nouvelle armée à l'échelle planétaire?
Je vais laisser la parole à Gilles Babinet.
Je crois que c'est passionnant, c'est la logique de plateforme. C'est une logique qu'on ne comprend pas en France, ou très mal, mais c'est de voir que la force, ça n'est pas dans un algorithme, une technologie, la force se trouve dans le système. Et le robot est un élément du système, et c'est ce qu'ils veulent développer. C'est la même chose lorsque Google souhaite aller dans l'automobile, dans la distribution, dans tous ces domaines. Ça n'est pas une logique hégémonique à proprement parler, c'est une logique qui consiste à dire notre force, c'est la plateforme. C'est le fait de faire des services liés, c'est le fait d'accumuler de la data, de la donnée sur les utilisateurs, et le fait d'être plus intelligent et d'être meilleur dans les services que l'on délivre.
C'est quelque chose dont on n'a pas l'habitude en France, c'est quelque chose dont on n'avait pas l'habitude autrefois, Ariel Kérou. Est-ce qu'on peut dire que Google a inventé une nouvelle forme de capitalisme ?
Moi, c'est ce que je crois profondément, en fait, hein, parce que je pense que le modèle, effectivement, qui, le modèle du moteur de recherche, c'est faites ce que vous voulez avec. Dites fuck à Google sur, si je puis me permettre, entre guillemets, sur le moteur de recherche, personne ne va aller vous chercher. Alors que sur Facebook, si vous dites du mal de Facebook, en fait, moi, j'ai des amis qui ont eu leur compte fermé, en fait. Donc, il se contrefout tant que les gens crée de l'information, crée de la connaissance avec l'ensemble de ces outils, en tout cas avec le moteur, il n'y a absolument aucun souci.
Mais d'ailleurs, je dois dire que pour trouver des critiques de Google, moi j'ai fait critique Google dans le moteur de recherche de Google et on trouve très bien. Donc, c'est ce qui différencie sans doute Big Brother de Google. C'est-à-dire, on peut critiquer le système à l'intérieur du système.
Tout à fait. Et s'il y a un Big Brother, c'est plutôt des Little Brother. Chacun a son propre, l'asservissement, il est partagé en quelque sorte. Après, sur la côté politique et économique, il faut bien voir que dans l'histoire de Google, lorsqu'on lit la manière dont ils sont entrés en bourse, il y a une défiance de Google par rapport à l'entrée en bourse. Ils ont choisi Eric Schmidt, qui était à l'époque PDG, en fait, hein, donc, qui a écrit ce livre avec Jared Cohen. Ils sont deux personnages de Google qui ont écrit donc, ce livre « À nous d'écrire l'avenir » en français.
Voilà, qui vient d'être publié chez De Noël.
Voilà, et en fait, il faut bien savoir une chose, c'est que dès qu'il a pu, Larry Page a repris les rênes, intégralement. Et que les premiers actionnaires quand même de Google, c'est Larry Page et Sergey Brin. En fait, hein. Et la part des gens de Google est énorme dans l'actionnariat. Donc, par rapport à d'autres structures, d'autres entreprises, la part de la bourse y est bien moindre. Elle existe parce que c'est une boîte, c'est une entreprise qui a ses propres contraintes, mais il ne faut pas calquer un modèle qui serait celui qu'on connaît nous ici avec des grands groupes français sur ce modèle de Google. Et je crois que la logique politique, au sens noble du terme ou pas, cette logique de construire quelque chose est excessivement forte, et c'est pas un hasard si Andy Rubin, par rapport à la robotique, hein, est un fan de Blade Runner, et il y croit, c'était sa passion. Avant de faire Android, il a choisi Android pour ça, il était ingénieur robotique, et quand il était gamin, il construisait des petits robots, et on lui a laissé l'opportunité de réaliser son rêve, tout simplement. Et là, effectivement, il rachète donc la logique du robot, pour eux, est complémentaire dans cette construction d'un autre type d'humain. Alors évidemment que le critère économique est là et est présent, mais le critère de plaisir et le critère politique est chez eux excessivement important et on a tendance à le sous-estimer en France.
Alors Gilles Babinet, vous nous disiez il y a un instant qu'on avait sans doute tort d'exagérer démesurément l'inquiétude qu'il peut y avoir autour de Google. Alors prenons l'exemple le plus récent dans l'actualité qui témoigne de cette inquiétude française, la décision de la ministre de la Culture Aurélie Filippetti de ne pas assister à l'inauguration du lab de l'Institut culturel Google à Paris. C'était la semaine dernière. Elle l'a justifié le lendemain chez nos confrères de France Inter en faisant référence à cette fameuse phrase de Vint Cerf disant que l'anonymat était une anomalie. Alors, au regard de l'histoire, ce qu'il disait, c'est-à-dire que finalement la vie privée en tout cas est quelque chose de suffisamment récent pour qu'on puisse le considérer comme une anomalie. Mais est-ce que vous considéreriez que Aurélie Filippetti a eu tort déjà de marquer cette position de principe-là en ne se rendant pas chez Google, ou est-ce que c'était une erreur?
Oui, on peut voir. Enfin, moi, je suis un peu déçu de ça. Je crois que ça dénote d'une certaine crispation, caractérisation politique ancienne, en fait, à l'égard de l'anti-atlantisme, de ce genre de choses. Et je pense que si on veut être critique à l'égard de Google, c'est en ayant une critique constructive.
On peut l'être, quand même.
On peut bien sûr l'être. Et il faut l'être. Le risque de totalitarisme, tout pouvoir va jusqu'au bout de lui-même. Si vous n'y opposez rien, Google va dominer le monde et va vous expliquer au fur et à mesure que les robots, c'est bien, que tout ça, c'est bien, etc. Et je pense que ça n'est pas pour autant en boudant, entre guillemets, qu'on est constructif. Et je vous dirais à cet égard que je ne suis pas certain que les États, notamment en ayant à l'esprit le débat qui a eu lieu sur ce fameux article 13, ne peuvent
alors,
pas adopter
article 13, voilà, de la loi de programmation militaire qui prévoit d'élargir les modes de surveillance des communications téléphoniques,
exactement,
notamment et informatiques.
Hein. Ne peuvent pas avoir un comportement plus totalitaire que ne puisse l'avoir Google. Je crois qu'il faut rappeler que si nous utilisons Google, c'est parce qu'il y a un contrat implicite. C'est Google va lire tous nos mails, va avoir une connaissance très intime de ce que nous faisons, et en contrepartie de ça, va être capable de nous rendre des services d'une qualité bonne, puisqu'on l'utilise.
Mais en quoi la surveillance qu'exerce Google sur nos données serait totalement différente de celle qui pourrait être exercée par exemple par les services de police ou par les renseignements?
Mais je crois que c'est dans les deux, on est à peu près dans la même posture dans les deux cas. C'est-à-dire que dès lors que le contrat n'est plus rempli, qu'il n'y a plus de contrepartie, ou que la contrepartie n'est plus équilibrée, eh bien, ça n'est pas juste et ça n'est pas acceptable. Et je crois que le problème que nous avons dans le cadre des services de renseignement, c'est que, a priori, la contrepartie est uniquement négative et peut sortir de tout contrôle. C'est la même chose dans le cas de Google, c'est-à-dire que on peut avoir la possibilité d'un Google qui, fort d'une situation certaine de domination, se mette à nous pousser des publicités qu'on ne souhaite pas voir ou des choses comme ça. Donc il faut rester vigilant, mais je crois que pour autant, il ne faut pas crier au loup trop tôt.
Donc on peut aussi imaginer des contre-pouvoirs, peut-être davantage que des contreparties. Ariel Quirot, est-ce que c'est au niveau de l'État que ces contre-pouvoirs peuvent s'exercer?
Je crois que c'est au niveau des gens. Je pense qu'il y a une nécessité, évidemment, de lucidité par rapport à Google. Je suis d'accord avec la notion de contrat. Je pense qu'effectivement, il y a un contrat implicite et on utilise les outils de Google. Et donc, effectivement, c'est à nous d'agir, de réagir si besoin.
Davantage que par la loi, par exemple.
La loi peut avoir son rôle, mais la manière dont on le prend en France, à mon sens, n'est pas toujours très, très adéquate, en fait, par rapport à Google. Je veux dire, quand on voit la numérisation, par exemple, des livres et ce qu'on a envie de faire, il n'aurait pas été un tout petit peu hors la loi, rien n'aurait été fait. Il aurait fallu obtenir des milliers d'autorisations, ce serait passé des années avant de pouvoir numériser un grand nombre de livres qui, pour beaucoup, avaient disparu, étaient ce qu'on appelait dans la zone grise, étaient des livres orphelins. Donc, à un moment donné...
En même temps, il n'y aurait pas eu de pression politique, il n'y aurait peut-être pas eu un fonds pour la presse de 60 millions d'euros.
Peut-être, mais là, ce que je veux dire, c'est qu'il faut se placer. Moi, je suis pour la critique. Les artistes, beaucoup d'artistes critiquent et détournent Google. Christophe Bruno et d'autres agissent dans cette matière, des logiques de hacking aussi qui se font. Je pense que la critique est absolument indispensable, mais la logique purement étatique, ce qui voudrait contrôler purement et simplement, à mon avis, est une erreur. En revanche, il faut être lucide, parce que ces gens-là ont la conviction profonde que la technologie est par nature bonne. Voilà. Et que tout ce qui vient de la technologie, quoi qu'il en soit, sera positif. Et c'est une superpuissance. Mais c'est une superpuissance excessivement forte, mais qui joue dans la carte de l'influence. Hein. C'est ce qu'on voit très bien dans le livre d'Eric Schmidt. Hein. Et le livre est d'autant plus intéressant parce qu'il ne dit pas, il ne parle pas du profilage, il ne parle pas des données personnelles. En revanche, il explique que c'est tellement génial de ne plus avoir de coiffeuse ou de coiffeur et que ce soit un robot, une machine qui vous fasse les cheveux.
Parmi les passages qui m'ont marqué d'ailleurs dans ce livre, donc, vous citez Eric Schmidt, donc ancien PDG de Google qui dirige aujourd'hui le conseil d'administration de l'entreprise. Et puis il l'a écrit, d'ailleurs je le signale, avec Jared Cohen qui est un spécialiste des relations internationales. Mais ils disent notamment ceci, et on voit bien qu'il y a aussi un discours un peu anti-étatique qui ressort dans le discours de cette entreprise américaine. Google est régulièrement poursuivi en justice par des gouvernements du monde entier pour de prétendues infractions aux droits d'auteur ou aux lois nationales. Et se démène, donc Google, pour montrer à ses usagers qu'ils placent leurs intérêts au premier rang de ses préoccupations, tout en restant dans les limites de la loi. Vincent Puren, on a presque l'impression que c'est Google contre les États et que venez plutôt chez moi, c'est nous qui allons vous protéger contre la dimension totalitaire des États.
Je crois que surtout que Google a conscience d'une chose, c'est qu'à l'inverse d'une institution, c'est une marque. Et finalement, qui dit marque, dit consommateur. Et si demain, l'usager décide de plus utiliser Google, Google n'existe plus, à l'inverse d'une institution. Donc, on ne peut pas mettre sur le même piédestal, on ne peut pas comparer, en tout cas, Google à une institution, même si elle remplit certaines missions d'un État, entre guillemets. Mais ça reste une marque. Et je pense que c'est pour ça qu'aujourd'hui, ils ont un discours... transparent, entre guillemets.
On ne peut pas les comparer à une institution, sauf que alors, Eric Schmidt, lorsqu'il était encore PDG, a été reçu... à l'Élysée, a signé directement un accord avec François Hollande. C'est-à-dire, c'est quand même assez rare Sarkozy, de voir un chef Nicolas Sarkozy. C'est quand même rare, en tout cas, de voir le patron d'une entreprise être mis au même niveau qu'un chef d'État.
C'est parce que ces gens-là changent le monde. Et ces gens-là changent le monde. Et si on ne prend pas conscience de ça, c'est grave. Et le fait de s'associer avec ces gens-là, ça contribue finalement aux citoyens. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, un gouvernement, un État est obligé de se rapprocher de ce genre d'entreprise qui prend un poids au-delà du commercial, qui prend un poids, qui change des sociétés.
Gilles Babinet.
Ce qui est vraiment intéressant, c'est de comprendre que Google cristallise et véhicule un certain nombre d'archétypes essentiels de la société américaine. Donc effectivement, tout ce courant libertarien, Tea Party même à certains égards, le refus de l'État et l'espèce de religion qui fait que la technologie et l'innovation vont sauver le monde. Et je crois qu'il faut s'interpeller aussi de temps en temps là-dessus. Moi, j'ai été assez surpris de voir, avec cette polémique sur la petite phrase que n'aurait pas dit Arnaud Montebourg, when innovation puts job at risk, we need to go slow.
Quand vous allez traduire immédiatement.
Quand l'innovation met le travail en danger, il faut qu'on y aille doucement. Évidemment, tout le monde a réagi avec des cris d'orfraie. Et je crois que ce qui est intéressant, c'est de se poser la question, est-ce que l'innovation est le but ultime d'une société ? J'entends une société humaine. Et je crois que cette question n'est pas posée et elle mériterait de l'être plus souvent. Et à l'égard de Google, c'est sans doute ce qui les guide et ce qu'ils nous communiquent à longueur de journée. C'est que dans la mesure où c'est de l'innovation, c'est forcément bien. Et c'est vrai qu'on a besoin d'innovation et je suis moi-même souvent amené à défendre l'innovation à tout craint. Pour autant, l'innovation n'est pas une fin en soi et elle peut se retourner contre nous.
Donc vous diriez que c'est plus le discours qui est derrière l'entreprise Google que l'entreprise Google en tant que telle qu'il faut critiquer, en tout cas remettre en question.
Exactement, c'est exactement ce que je pense.
Alors il y a une autre dimension qui est propre à la société américaine, c'est une dimension moralisatrice. Alors on rappelle souvent cette phrase d'Eric Schmidt, donc ancien PDG de Google, en 2010 au sujet de la protection des données personnelles et de fait de dire qu'on n'a pas toujours envie qu'on sache tout de nos vies. Il avait dit ceci, si vous souhaitez que personne ne soit au courant de certaines des choses que vous faites, peut-être ne devriez-vous simplement pas les faire. Est-ce qu'il y a une dimension moralisatrice chez Google, Ariel Kirou?
Oui, il y a une dimension moralisatrice. Hein. C'est ce Don Bieville dont je parlais tout à l'heure, ce claim, ce motto qui est de dire il faut faire le bien. Donc il y a une dimension politique, il y a une forte dimension imaginaire, il y a une dimension moralisatrice. Ça, c'est une évidence. Et,
c'est un peu le meilleur des mondes à la sauce Google, mais c'est quand même le meilleur des mondes.
Oui,
d'ailleurs,
après, alors...
ça m'a frappé hein, dans la conclusion, première phrase de conclusion de ce livre.
Oui.
Je ne sais pas si c'est un effet de la traduction, mais ils évoquent justement le meilleur des mondes. Quand on considère l'avenir avec ses promesses et ses défis, on voit s'annoncer le meilleur des mondes. Sinon, on pense au roman de
Huxley. Oui, tout à fait. Mais bon, après, là justement où le bât blesse, et là où ils essayent justement hein, ce non-dit de ce livre d'Eric Schmidt, hein, c'est effectivement les données personnelles. C'est la croissance de Google demain, et notamment ces données personnelles via les mobiles, via toutes, d'ailleurs, non seulement les mobiles, mais tous les types d'appareils qui vont communiquer les uns avec les autres. Hein, et leur idée, évidemment, est d'être partout présent, quels que soient les appareils demain, même si c'est mon bouton de manchette qui a une intelligence puce, bah, ils ont envie d'être présents dans le bouton de manchette. C'est une évidence, en fait. Bon. Et là où le bât blesse, justement, c'est qu'ils sont aussi dans des logiques de profilage, c'est-à-dire de connaissances très personnalisées, très précises, en quelque sorte, donc du public. Mais pour eux, il n'y a pas de mal à ça, quelque part, parce qu'ils ont le sentiment que les gens le veulent, que c'est pour leur bien. Ils vont anticiper leurs désirs, ils vont à la limite connaître des gens encore mieux qu'eux-mêmes. Et à mon sens, le vrai souci, c'est qu'on peut adhérer hein, à ce projet, puisqu'on, si on est bien servi, il n'y a pas de souci. Mais à mon sens, cela veut dire se prendre soi-même pour son nombre d'informations. Nous créons un avatar, même sans nous en rendre compte, au travers de nos pérégrinations sur la toile et partout, dans tous nos actes du quotidien qui se multiplient. On crée une sorte d'être double, qui est notre et le problème c'est de ne pas se prendre pour lui. Or c'est ce que cherche à faire Google. Il cherche à faire en sorte que nous nous prenions pour notre ombre d'informations, pour notre avatar de données. Et là, à mon sens, il y a un vrai souci philosophique. Mais ça n'a rien à voir avec le fait qu'on peut utiliser les services de Google et qu'on peut prendre cette posture.
Vincent Puren, Google ambitionne de changer le monde en étant persuadé que l'innovation, effectivement, est quelque chose d'essentiel. Est-ce que Google n'imagine pas également aujourd'hui changer l'homme? La firme a annoncé la création, c'était le 18 septembre dernier, de Calico. Alors, c'est un projet contre le vieillissement. Il y a eu une tribune un peu de temps après dans Le Monde qui est intitulée, je crois que c'est un neurologue qui l'a signé, Google contre la mort, en soulignant notamment l'approche transhumaniste, c'est-à-dire en disant que Google avait peut-être l'ambition d'inventer l'immortalité. Alors là, ça va quand même très loin.
En restant sur ces services du numérique, en fait, ce projet Calico, c'est la data au service de la santé. Et je crois que ces deux projets qui, à long terme, vont vraiment être centraux pour Google, c'est à la fois le transhumanisme, qui dit transhumanisme, dit donc santé, Calico, biotechnologie, etc. Et, pour aller encore plus loin, la robotique, finalement... D'une part, donc, augmenter les capacités de l'homme et de secondo, créer entre guillemets des assistants, des robots. Et Google avance énormément là-dessus. 8 sociétés rachetées, Boston Dynamics la semaine dernière, et un cerveau électronique en cours de développement qui c'est un projet qui avance, qui a été capable de reconnaître.
Un cerveau électronique, c'est-à-dire ?
En fait, l'objectif avec ce cerveau électronique, c'est de calquer le modèle du cerveau de l'homme et de le créer de manière donc mécanique. Aujourd'hui, Google donc travaille sur ce cerveau-là. Il faut savoir qu'il a été capable de reconnaître, je crois que c'est un animal, je crois que c'est un singe. C'est-à-dire qu'on a confronté cette interface-là à un objet, un animal. Il a été capable, c'est une sorte de base de données finalement dans ce cerveau, de reconnaître concrètement la chose, l'objet, l'animal face à lui.
Ah, c'est absolument fascinant ça, Gilles Babinet, avec tout ce qu'il peut y avoir à la fois d'émerveillement et de crainte dans la fascination. Hein.
Mais c'est là où je crois qu'on voit la posture idéologique très marquée des fondateurs de Google. Il y a une religion scientiste à l'égard de ces projets. Moi, il se trouve que j'ai autour de moi des gens qui sont des chercheurs en sciences du vivant et qui me disent le transhumanisme n'est rien d'autre qu'une religion. C'est-à-dire que c'est une espèce de croyance que le développement des technologies du vivant va soudainement s'accélérer et que de fait, la barrière de la mortalité va disparaître. Et lorsque vous rentrez concrètement dans les enjeux dont il est question pour parvenir à ça, vous vous rendez compte qu'on en est quand même très loin et que pour arriver à dépasser ces barrières, la seule façon de le faire, c'est de rentrer dans une forme de pensée magique. C'est-à-dire de vous dire on va y arriver d'une manière ou d'une autre parce que la science va nous permettre d'y arriver. Donc je crois que c'est là où je crois qu'il faut revenir sur Terre, c'est-à-dire de se dire c'est pas parce que ces gens-là sont très forts pour faire des moteurs de recherche qu'ils ont une vision qui, d'un point de vue philosophique, est forcément correcte. Et je crois qu'il ne faut pas hésiter à avoir un regard extrêmement critique là-dessus et de dire que, malgré tout, le projet de l'humanité, c'est de décider collectivement ce qui va être bon pour nous et de ne pas laisser la technologie le faire pour nous. J'ai personnellement une foi profonde dans l'innovation. Pour autant, je ne vais pas laisser des sociétés décider n'importe quoi et surtout me faire croire n'importe quoi au prétexte que c'est elles qui ont inventé un moteur de recherche.
Ariel Kirou, quand vous avez écrit Google God en 2010, donc, est-ce que c'était aussi donc, ce titre, hein, Google God, donc le dieu Google, c'était aussi parce que vous aviez pris en compte ou anticipé peut-être cette dimension post-humaniste ou transhumaniste plutôt de Google.
C'est une dimension qui est très présente dans le livre. D'ailleurs, la nouveauté depuis, c'est que le pape du transhumanisme, le grand gourou Ray Kurzweil, est justement celui qui travaille sur ce cerveau, artificiel. Hein, donc oui, tout à fait. Hein. Et d'ailleurs, Google a été le premier financier de l'université de la singularité dans la Silicon Valley, qui est une université qui justement est une université qui se veut transhumaniste et qui travaille sur toutes ces thématiques et qui est très très chère d'ailleurs hein, et qui ramène beaucoup d'argent par ailleurs. Voilà, non, oui, je crois que c'est quelque chose qui est excessivement présent, qui est très très présent et que là, comme le dit effectivement, comme le disent les intervenants, il faut être lucide et savoir, savoir regarder ça en face, même si c'est un moteur absolument incroyable, c'est-à-dire que c'est un moteur d'innovation qui est assez inouï, je veux dire, ce qui n'empêche qu'effectivement, il faut être lucide par rapport à ça.
Et imaginons que Google existe encore dans 10 ans et que nous refassions une émission consacrée à cette firme américaine. On aura peut-être besoin de nouvelles archives, alors allez, à vous de vous mouiller, on s'est un petit peu moqué au début de l'émission, hein. Mais que sera Google dans 10 ans, Vincent Puren? Vous travaillez pour nos archives, là, donc.
J'aime pas prédire, parce que c'est vrai que ça avance à une vitesse effrénée, mais par contre,
que vous avez peut-être raison
si on se projette un petit peu, en fait, l'ambition à long terme de Google se travaille dans le X-Lab. D'ailleurs, le X-Lab est considéré comme la nouvelle zone 51, parce qu'on s'imagine un petit peu, on travaille notre imaginaire en imaginant ce qu'il peut y avoir dedans, notamment des projets sur l'aérospatiale. Donc pour moi, c'est ça, c'est Google, demain, sera une compagnie d'aérospatiale qui surfera d'une planète à une autre. On peut l'imaginer, peut-être pas dans 10 ans, mais à très long terme.
Google aura peut-être racheté France Culture, Gilles Babinet?
Je ne vous le souhaite pas. Non, je ne pense pas. Non, je pense qu'une chose qui est sans doute vraie, c'est que dans 10 ans, Google sera sorti de la recherche, du moteur de recherche.
Je crois que le moteur sera encore présent, quoi qu'il arrive, mais il y aura plein d'autres dimensions.
Pas sous forme clavier, quoi.
Oui, pas sous forme clavier, effectivement, vocal ou autre. En tout cas, le rêve de Google, c'est d'être notre meilleur ami. En fait, le seul problème, c'est qu'on ne peut pas tout faire avec lui, malheureusement.
Bon, je ne sais pas ce que vous faites dans 10 ans, mais je vous réinvite tous les trois pour en rediscuter. Merci beaucoup, en tout cas, d'avoir participé à cette discussion. Ariel Kirou, Gilles Babinet, Vincent Puren. Discussion que vous pouvez commenter, comme tous les soirs, sur notre site franceculture.fr, la page du Grand Moudre. Réécoute pendant 1000 jours, podcast pendant un an. Demain, nous traiterons d'un sujet pas si éloigné que celui de notre débat du jour, puisque la question que nous poserons sera la suivante. Serions-nous mieux dirigés par des ingénieurs?